Vous êtes toujours à l'écoute de RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et ben, je propose qu'on écoute maintenant Laure Blondel, hein, et donc c'était qui a été enregistrée, donc pour une fois elle n'est pas en direct ici au studio, mais elle a été enregistrée le 27 novembre dernier à l'occasion d'une rencontre qui s'appelait Résister aux frontières et qui se tenait au CICP et qui parle du, donc cette rencontre était surtout comme on pourrait dire dédié, enfin le sujet c'était la répression des solidaires, et Laure ne parle pas tant de la répression des solidaires, quoique, mais surtout du contexte. Donc tout de suite, Laure Blondel, enregistrée au CICP, donc il y a un peu plus d'un mois.
Bonsoir. Alors, l'idée c'est pas forcément de rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur la réalité des oppressions à la frontière, quoique. Puisque je vais commencer par un petit point sur le contexte en fait des politiques migratoires européennes, qui du coup a pour conséquence tout ce dont on va parler ce soir. C'est bon si je parle comme ça dans le micro ? Ouais, d'accord. Donc du coup un petit point sur le contexte. La question des résistances aux frontières, effectivement, elle n'est pas nouvelle, puisque la question des oppressions aux frontières n'est pas nouvelle. Il y a une petite accélération depuis quelques années, ça c'est sûr. Il y a une visibilité aussi de ce qui se passe, qui est peut-être un peu plus importante qu'il y a quelques années. Mais tout a commencé quand même depuis les années 80, ça date un peu, puisque depuis les années 80, l'Europe et les pays européens ont mis en place un certain nombre de mesures visant à bloquer en fait les personnes migrantes. Alors, je le dirais peut-être autrement, visant à entraver l'accès et à contrôler surtout les frontières, avec cette idée que la lutte contre l'immigration dite irrégulière doit absolument primer sur tout. Et donc du coup, on est dans un contexte de durcissement des politiques migratoires européennes et nationales. Et c'est une approche exclusivement sécuritaire qui a été mise en place et qui continue d'être mise en place avec de plus en plus de mesures concrètes. Donc certaines que vous connaissez sûrement, on a la politique des visas qui est quand même la grosse mesure du contrôle des frontières. De plus en plus l'édification de murs, de barbelés, un contrôle militarisé des frontières, les retours forcés, la mise en place de hotspots assez récemment, l'enfermement des migrants aux frontières, le développement des fichiers, j'y reviendrai ça dans un instant. Donc voilà, donc on a comme ça tout un tas de mesures qui se développent en Europe, mais pas que, puisqu'on a un autre phénomène qui est l'externalisation des contrôles, l'externalisation des contrôles des frontières, où du coup l'Europe va externaliser sa politique migratoire répressive dans les pays considérés à risque migratoire, et on va demander aux États, donc aux pays de départ, de participer à ce sale boulot. Un des outils quand même privilégiés de cette politique migratoire européenne, retrouve du coup à l'échelon national, c'est l'enfermement. La privation de liberté des étrangers comme un outil de gestion des migrations et des demandeurs d'asile également. Et avec toutes ces mesures qui sont mises en place par les États, on a finalement une même logique qui est à l'œuvre. C'est une logique de rejet, une logique de tri, de fichage, et qui se traduit par un bon nombre de violations des droits fondamentaux. Et surtout, on se retrouve aussi avec un phénomène où finalement, étape après étape, tout est fait pour diluer les responsabilités, pour que les États, l'Europe, n'aient pas à rendre compte des conséquences des politiques qu'ils mettent en place. Parce que finalement, l'Europe s'est inventé un ennemi imaginaire qu'il faut combattre, et du coup va déployer tout un tas de mesures, un véritable arsenal sécuritaire, répressif, et qui vise deux catégories de personnes, bien évidemment avant toute chose les personnes étrangères en migration, mais de plus en plus les acteurs de la solidarité internationale, donc les soutiens à ce droit à la mobilité. Donc concernant les personnes migrantes, d'abord, effectivement cet arsenal que j'ai un peu, enfin j'ai cité quelques exemples, contribuent avant tout à la stigmatisation des migrants comme des criminels qu'il faut enfermer, qu'il faut punir, comme des personnes indésirables qu'il faut maintenir à l'écart. Et on se retrouve finalement avec les étrangers comme une, qui vont être utilisés finalement comme un outil, je mets avec des guillemets, mais comme un outil politique et médiatique qui va permettre de faire accepter à la population tout un tas d'autres mesures qui vont les concerner et leur faire accepter que c'est pour leur bien. Je prendrai par exemple toutes les mesures qui sont liées à la lutte contre le terrorisme, qui sont attentatoires aux libertés individuelles de tout un chacun et que l'on va accepter parce qu'on va nous dire que c'est pour nous protéger contre un ennemi imaginaire, vous l'avez compris. Donc voilà. Ce durcissement des politiques migratoires, une de ses premières conséquences directes, hein, c'est effectivement l'entrave à la mobilité. Donc les personnes qui vont être de plus en plus bloquées et de plus en plus empêchées de, d'emprunter des voies dites régulières, par exemple l'avion, et donc du coup vont être forcées d'emprunter des voies toujours plus dangereuses. Et donc on a cette conséquence-là, c'est un nombre toujours plus important de morts aux frontières. On parle beaucoup de la mer Méditerranée, mais pas que. On va avoir aussi les personnes qui meurent dans le désert. Si on parle de morts maritimes, on a aussi entre les Comores et Mayotte. Donc voilà, donc on a cette conséquence qui est quand même assez dramatique et qui est vraiment la première en fait conséquence de toutes ces politiques qui sont mises en place. Pour parler un peu plus précisément des frontières françaises, pour les personnes qui parviendraient à braver toutes ces entraves et à monter par exemple dans un avion et qui auraient la chance donc d'arriver dans un aéroport français, je prends l'exemple de la France mais tous les pays européens ont ce système-là, le parcours du combattant, on peut appeler ça comme ça, n'est pas terminé puisque du coup elle risque de se faire bloquer aux frontières. Je parlais tout à l'heure d'enfermement et donc du coup c'est ce qui se passe en France avec les zones d'attente. Donc, les zones d'attente, je suis pas sûre que tout le monde en ait déjà entendu parler, ce serait l'équivalent des centres de rétention mais pour les personnes que l'on va arrêter à la sortie de l'avion et ou à la sortie du bateau, que l'on va enfermer, à qui on va refuser l'entrée sur le territoire Schengen, et que l'on va comme ça priver de liberté le temps de les renvoyer. Alors c'est très peu connu, maintenant c'est des chiffres qui sont assez conséquents, donc il y a 98 zones d'attente en France métropolitaine et outre-mer, principale c'est Roissy. Et en termes de chiffres, en 2017 on était à 16 000 personnes qui ont un refus d'entrée, 1000 personnes qui faisaient une demande d'asile dans ces lieux et on était à peu près 68 000 personnes qui ont un refus d'entrée aux frontières internes et notamment à la frontière franco-italienne puisque depuis le rétablissement des contrôles aux frontières internes en 2015 la situation s'est quand même largement dégradée à cette frontière, on en parle beaucoup. Rapidement le constat qui est fait de ce qui se passe dans ces lieux d'enfermement mais pas que, c'est la violation des droits. En fait l'enfermement provoque des violations des droits. Il n'y a pas que l'ANAFE qui le dit, il n'y a pas que les gauchos qui le disent, mais aussi tout un tas d'enquêtes, notamment commandées par des comités de défense des droits, comité de l'ONU, comité du Conseil de l'Europe, qui arrivent à cette même conclusion. L'enfermement provoque des violations des droits. On ne peut pas enfermer quelqu'un dans le respect de ses droits. Et donc parmi les droits les plus fréquemment mis à mal, on a l'accès aux soins, on a la protection de l'enfance, l'accès aux juges, la vie privée et familiale, la liberté d'aller et venir. Les personnes subissent également des pressions, voire des violences policières, sont victimes de décisions arbitraires et discriminantes et parfois sont maintenues dans des conditions indignes. Je ne vais pas faire plus long sur cette partie. Un petit mot sur les oppressions qui concernent les acteurs de la solidarité à ces frontières, notamment plus sous l'angle de l'expérience de l'ANAFE. On va avoir plusieurs types de risques en fait auxquels sont confrontés les militants. On a d'abord le risque d'être convoqué à une audition. Alors ça peut être une audition de témoin, ça irait encore, mais ça peut être aussi une audition libre, parce que du coup on va vouloir nous accuser de quelque chose. Et donc un des exemples, ça a été des personnes qui ont été convoquées en audition libre parce qu'elles ont récupéré, elles ont aidé à déposer une plainte pour violence policière. Et du coup, elles ont été convoquées en audition libre pour une enquête pour dénonciation calomnieuse. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un des exemples qu'on peut trouver. Un autre exemple qu'on va trouver, c'est les contrôles d'identité, les vérifications d'identité qui vont être très intensifiées et très ciblées pour les personnes. Donc, par exemple, on a plusieurs militants qui font fréquemment des observations, des pratiques à la frontière franco-italienne. Systématiquement, à chaque fois qu'ils font une observation, il y a un contrôle d'identité. On va également avoir un certain nombre de pressions, d'intimidations, de menaces qui peuvent se manifester différemment. Par exemple, on a un visiteur qui, lors d'une visite de zone d'attente, parce que titiller peut-être un petit peu trop sur les conditions d'accès au droit, a été menacé d'être placé en garde à vue. On a également les militants qui vont être victimes de diffamation sur Internet. Je pense que mes camarades pourront aussi en parler, mais du coup, il y a aussi lors des manifestations les violences qui ne sont pas que à l'égard des migrants, mais qui sont aussi à l'égard des militants, notamment lors des mobilisations. Et un dernier point, c'est le développement du fichage, puisque de plus en plus les fichiers se développent. L'accès à ces fichiers est par les personnes concernées est de plus en plus compliqué. C'est très difficile de savoir si on est fiché, pourquoi on est fiché, sachant qu'on peut être fiché pour n'importe quoi. On a une de nos militantes qui était fichée S parce qu'elle avait assisté à toutes les audiences au moment du procès de l'incendie du CRAT Vincennes. Donc voilà, si tu as des audiences, on peut se faire fichier S. Fichier S parce qu'on participe à un peu trop de mobilisation, qu'on ait été interpellé ou pas. Mais du coup, à un moment donné, on se retrouve avec une espèce d'épée de Damoclès, un fichage qui peut d'ailleurs être utilisé pour bloquer l'entrée. On a eu plusieurs exemples de militants européens qui se sont fait bloquer l'entrée en France au prétexte de fichage que l'administration n'a d'ailleurs jamais pu produire. Donc même le fichage, qu'il soit réel ou pas, est utilisé comme processus de blocage. Voilà. Désolée si j'étais un peu longue.
Vous êtes toujours à l'écoute de RESF sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et on écoutait Laure Blondel. Donc c'était enregistré au CICP, une soirée qui s'appelait Résister aux frontières. Et tout de suite, comme je vois que les oreilles loin du front s'installent dans le studio, eh bien on va passer à notre petit agenda.